Donc voilà, le débat aujourd'hui, enfin la discussion, c'est sur les rapports entre science et science-fiction. À côté de moi, donc Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA, et qui est en même temps un vulgarisateur de la science, qui a écrit beaucoup de bouquins, et qui est un des rares scientifiques à s'intéresser à la science-fiction. C'est-à-dire que il a déjà écrit sur Star Wars, c'est un bouquin qui a bien marché là, faire de la physique avec Star Wars. Il a écrit sur la physique de Superman, c'est un livre pendant longtemps indisponible qui a été réédité. J'en suis très content parce que je me marre, on essaie de nous montrer comment Superman peut être un super-héros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il consomme en tant qu'énergie pour voler, qu'est-ce qu'il lui faut comme regard pour pouvoir observer de très loin, donc il a des yeux de chouette et c'est normal qu'on puisse pas le photographier, qu'il ait une force incroyable n'empêche pas certaines lois physiques de s'appliquer, arrêter un train lancé à 100 km/h, qu'il y ait ou pas des wagons derrière, suppose qu'il y ait une certaine force de recul et que donc il est obligé d'avoir des talons en titane de 75 cm à peu près. Ouais, enfin bon, et c'est une drag queen quoi. Ouais. Voilà, donc on a le dessin de Superman qui change au fur et à mesure, au fil du bouquin, c'est vraiment intéressant et on en apprend beaucoup sur lui, sur la force physique, sur l'énergie que l'on consomme, etc. Il a beaucoup écrit sur... Bon, récemment, il a écrit sur Avatar. Et donc, c'est un auteur de vulgarisation qui part de la science-fiction, et plutôt de la science-fiction très populaire, très généraliste, davantage les films que les bouquins, pour pouvoir nous parler de science.
Parfait.
Je n'ai rien à dire. C'est parfait. Bon, alors, pourquoi tu fais ça ?
Parce que ça me fait devenir très riche.
On t'entend là ?
Ah, je t'entends, il faut que je prenne un micro. Ça marche ? Non, c'est pas le...
Oui, ça marche.
Ça marche direct ?
Oui, on t'entend.
Bon, non, c'est pas rouge. Non, c'est pas rouge, c'est pas bon.
Ouais, les deux sont rouges. Tiens, prends ça. Prends ça.
Merci. Ah. Merci. Donc, oui, ce que disait Claude est tout à fait vrai. J'utilise la science-fiction pour parler de science, comme prétexte pour parler de science. Évidemment, l'idée, c'est pas de critiquer la science-fiction, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'essentiellement, même dans le grand public qui n'est pas la science et qui n'est pas non plus la science-fiction, je doute bien que ce qu'on voit dans les films de science-fiction, c'est pas bien au point de vue de la science, c'est pas correct. Et donc ça, c'est pas très intéressant de dire ça. Je le dis au passage, qu'on est quand même, qu'on soit d'accord sur ce qu'on sait sur la science et le fonctionnement du monde, mais l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif, c'est vraiment de présenter les idées de la science. Les faits scientifiques qui ont été élaborés pendant des milliers d'années ou au moins 2000 ans qui nous ont précédés, mais aussi la façon dont ces faits ont été acquis, dont ces faits ont été construits. Ça présente donc autant les faits scientifiques que la méthodologie scientifique, et ça permet de se livrer à des enquêtes scientifiques sur les mondes que l'on voit pour déterminer des informations qui ne sont pas données a priori dans l'œuvre. Par exemple, dans Star Wars, on peut déterminer quelle est la puissance dégagée par un sabre laser. Alors ça, c'est dit nulle part, on en a l'impression que c'est quand même assez puissant, évidemment, on fait des tas de choses avec ça. D'abord, les gars, ils sont branchés sur la force, qu'on devrait d'abord appeler l'énergie. Je pense qu'il faudrait me dire que l'énergie soit avec toi, ce serait mieux, mais bon, c'est pas moi qui ai fait le film. Et ensuite, on peut déterminer cette puissance en regardant uniquement le film, c'est ça qui est intéressant aussi, sans aller voir les œuvres secondaires, les détails supplémentaires qu'on a fait après. Alors la réponse, comme je vous la donne, c'est 3 gigawatts, ça veut dire 3 milliards de watts, ça veut dire 3 centrales nucléaires, dans un truc qui est gros comme un sabre laser. Donc si c'est des piles qu'on ne sait pas faire, des piles ou des accumulateurs, enfin ce qu'on veut, c'est, on ne sait pas le faire. Sinon, c'est autre chose et peut-être la force. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une enquête et aboutir à la fin qu'évidemment le sabre laser, pour au moins cette raison-là, il y en a 4 autres qui sont aussi rédhibitoires, est un objet qui ne peut pas exister. Mais ça, on s'en fout parce qu'on est quand même, on a plaisir à le regarder. Moi, j'en ai un chez moi, enfin un faux. Et voilà, on s'en fout que ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est que ça soit plaisant, évidemment, dans ces œuvres de fiction. Ce qui compte, c'est que ça soit divertissant, plaisant,
je m'en fous pas.
Intéressant.
Il m'a menacé avec son sabre laser, je m'en fous pas qu'il ne marche pas. Je suis très content qu'il ne marche pas.
Ça dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Et puis, on peut déterminer la taille de l'étoile de la mort ou des choses sur Superman, pareil, dans Tintin, alors dans un registre qui n'est pas de la science-fiction, mais qui serait, disons, les supports de l'imaginaire, la bande dessinée ou le cinéma, mais moins science-fiction. On peut déterminer l'emplacement du temple du soleil, on peut déterminer le jour où il a découvert l'étoile mystérieuse, le jour et l'heure. Vous voulez découvrir l'étoile mystérieuse, alors toutes ces informations ne sont pas données dans l'œuvre. Donc c'est ça qui me paraît le plus intéressant, c'est précisément qu'on peut, grâce à la science-fiction, grâce à ses supports, élaborer autour de la méthodologie scientifique. Qu'est-ce qui fait que, comment un scientifique s'empare d'un problème mal posé, par exemple, de problème mal posé, quelle est la température au centre du Soleil ? Voilà. Débrouillez-vous, vous avez 20 ans. Alors, évidemment, c'est toute la recherche de l'astrophysique qui a permis d'élaborer une compréhension des phénomènes physiques qui sont à l'œuvre dans les étoiles en général et dans le Soleil en particulier. De ces modèles a permis d'en faire des modèles d'abord analytiques, à la main, on fait des calculs, donc on fait ce qu'on peut. Après, des modèles numériques très chiadés, et puis à la fin, on arrive à se convaincre que la température au centre du Soleil, c'est quelque chose comme 14 millions ou 15 millions de degrés. Voilà, mais on n'a pas été dedans pour mesurer. Ben là, c'est exactement pareil. On a un point de vue sur ces films, en tout cas, le point de vue JADOB sur ces films, c'est celui-là. On les regarde, on ne peut pas aller dedans. On ne peut pas faire des expériences dans le lieu du film, dans le monde du film. Je ne peux que regarder ce qui m'en vient par de la lumière, qui est finalement ce qui vient de l'écran, ou par les images qui sont produites si c'est de la bande dessinée, ou par les images qui sont interprétées par mon cerveau quand c'est de la littérature. Et puis, à partir de ça, essayer de faire quelque chose qui soit cohérent entre l'œuvre et notre monde à nous, notre monde d'ici et maintenant. Alors ça, c'est tout à fait semblable donc, à la démarche de l'astrophysicien et du scientifique en général. Et puis, deuxièmement, ça montre aussi qu'il y a une hypothèse que je fais, c'est que ces mondes obéissent aux mêmes lois que les nôtres. Alors, il y a deux positions possibles. Soit ils n'obéissent pas aux mêmes lois que les nôtres, auquel cas, je n'ai rien à en dire. Par exemple, Harry Potter, et c'est volontairement que je n'ai jamais rien fait sur la science de Harry Potter, alors qu'on pourrait tenter le coup, c'est un monde qui obéit à des lois qui sont complètement différentes des nôtres, explicitement. Il y a de la magie, il se passe des choses vraiment différentes. Donc, je n'ai rien à en dire, parce que je n'ai aucun moyen, ici, de mener des investigations sur ces lois. A l'inverse, Star Wars, c'est un monde qui, pour l'essentiel, semble obéir à nos lois, et on peut parfois trouver des cohérences, pas toujours, mais trouver des cohérences avec notre monde. Et l'astrophysique fait exactement ça, en observant les lois physiques du monde terrestre d'ici et maintenant, je dis d'ici parce que c'est sur la Terre, et de maintenant, parce que bon, c'était peut-être il y a 2000 ans ou dans 2000 ans, mais enfin, à l'échelle de l'univers, c'est infinitésimal en espace, en distance spatiale, et en extension spatiale, et en durée. On peut comprendre ce qui se passe dans l'univers, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque on va dire en gros avant Galilée, on imaginait que les lois au-delà de la Lune incluse, n'étaient pas les mêmes que les lois de la Terre, et en dessous de la Lune inclus. Autrement dit, les quatre éléments terrestres permettaient de justifier ce qui se passait sur Terre, la Terre, l'eau, le feu et l'air. On comprenait ce qui se passait sur Terre avec ça. Au-delà de la Lune, il y avait le cinquième élément, qui s'appelle la quintessence. Et les lois étaient tout à fait différentes. Donc, mettons, à partir de Galilée, on a commencé à se dire, bon, ciel égale terre, disons, première équation de l'astronomie, les lois du ciel égalent les lois de la terre. Pour revenir et pour repasser après la parole à Claude, quand même, pour ne pas la monopoliser, cinquième élément, c'est un film, et les quatre éléments aristotéliciens, c'est les quatre fantastiques. C'est la chose pour la terre, c'est le feu pour le gars qui s'enflamme, là, la torche, c'est l'eau pour Monsieur Fantastique, qui est tout mou, qui a une forme propre, mais qui peut quand même se déformer, et c'est l'air pour Jane Storm, qui est invisible. Et le surfeur d'argent, évidemment, qui passe à travers les murs, fait des trucs, c'est le cinquième élément. Donc je ne vais pas dire qu'on peut faire un rudiment de physique historique, de philosophie aristotélicienne avec les quatre fantastiques, mais on peut tenter le coup. Voilà. Donc, hein, pitié, non. Pitié, bon. Alors je ne le ferai pas. Non, mais c'est pas... Là, alors voilà, j'ai l'impression que ce film ne vous plaît pas. Non, mais on est d'accord, c'est bien. Il ne plaît pas, mais...
Là, il y a les BD.
Point, voilà. Il y a les BD d'abord, mais bon, les jeunes gens, enfin, si je parle de ça à des gamins de 15 ans, ils ont vu le film, ils n'ont pas vu les BD, enfin, ils n'ont pas vu forcément les comics il y a 30 ans.
Oui, enfin, c'est mal dessiné pour les années 60, enfin, les premières des années 60 sont un peu maladroites.
Alors, le point c'est, est-ce qu'il faut un bon film, est-ce que plutôt une bonne science fait un bon film de science-fiction ? Non, évidemment. Un bon film de science-fiction, c'est un film qui est décidé bon pour des critères qui ne sont pas du tout les caractéristiques, la qualité de la science qui est présentée dedans. Est-ce que un bon film ou un mauvais film de science-fiction est plus ou moins utile pour parler de science ? Les mauvais films sont plus utiles. Parce que pour les étudiants, ou pour les gens qui savent peu de son étudiant, c'est-à-dire quelqu'un qui sait un peu de science, mais qui n'est pas forcément aguerri pour l'utiliser en dehors d'un contexte très calibré qui sont les examens. Eh bien, c'est plus facile quand c'est évidemment faux et de manière triviale. Donc le sabre laser ne fonctionne pas pour des raisons qui sont évidentes. Dès qu'on a fait un peu d'électromagnétisme, même si on n'a pas fait d'électromagnétisme, c'est presque évident, eh bien c'est facile à dire que ça ne marche pas, et donc c'est bien. Alors qu'un film Fusion the Core, par exemple, qui est dans le sommet des films mauvais, je pense, il est pas mal, et bien c'est pareil, quoi. Il est tellement faux partout qu'on peut en parler plus facilement, bon, ça revient essentiellement à le dégommer. Voilà. Alors après, il y a des bons films où la science est bien traitée, il y aurait 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, où c'est pas mal fait, essentiellement. Bon, il y a quand même un... Bon, la fin, on discute. On peut discuter de la fin. Il y a l'ordinateur, enfin l'intelligence artificielle, bon, d'accord, c'est un peu au-delà. il y a toute une partie qui est assez intéressante. Enfin, tout le début est vraiment bien foutu pour ça.
Oui, mais alors, je t'arrête parce que tu as une manière de considérer la science-fiction qui est le point de vue du scientifique. C'est-à-dire que la littérature de science-fiction ou le cinéma est pour toi un prétexte de parler de science, alors que au départ, ce n'est quand même pas le but recherché. C'est pas parler de science lorsque l'on fait de la littérature de science-fiction.
Absolument. Alors, deux remarques à cette, enfin, deux réponses ou peut-être trois réponses à cette question intéressante. Moi, je m'en sers comme prétexte que, comme scientifique, ce qui m'intéresse, moi, quand je parle au grand public, c'est de parler de science et d'en parler de façon aimable. Et je trouve que la science-fiction, qui moi me plaît, en plus, me paraît un support aimable. Bon, après, à discuter. Est-ce que c'est d'autres vont dire, oh, ben non, c'est nul, ça m'intéresse pas. Bon. Ensuite, la science-fiction, elle a fait, je vais pas dire de la vulgarisation, mais elle est quand même née pour partie de la vulgarisation scientifique, ou du moins d'une volonté de rendre la science merveilleuse et d'intégrer la science effectivement dans les œuvres, si on prend les œuvres évidemment de Jules Verne, ou de Poe, ou de Rognéné, ou d'autres précurseurs européens. Enfin, je dis ça à toi comme si je t'expliquais la science, Claude, mais je sais bien que tu pourrais tout compléter, tu regardes d'un air pénétré en disant oui, il m'apprend des trucs, mais je sais bien que tu en sais sur ces sujets-là au moins, et pour ne pas dire beaucoup plus que moi. Donc la science-fiction est née quand même d'une volonté, je ne veux pas dire vulgarisatrice, mais en tout cas de présenter la science de façon aimable et de la mettre en scène dans des romans agréables, qu'on a pu appeler de romans de merveilleux scientifiques, avant que ça soit de la science-fiction, puis de la science-fiction. Et même Hugo Gernsback, qui était donc cet éditeur américain qui a fondé, dont tu as le t-shirt, enfin tu as l'emblème, qui a fondé la science-fiction, puis la science-fiction, enfin tu vois, qui a forgé le nom, a d'abord édité Modern Electrics, Science and Invention, des magazines de vulgarisation scientifique qui portaient sur l'électricité, sur la radio, sur les techniques qui étaient en vogue, disons, ou intéressantes pour le grand public dans les années 20, nouvelles, en vogue, et à diffuser pour le grand public. Donc, de ce point de vue-là, je ne fais que rendre à la science-fiction ce qui lui appartenait au début et qui en a disparu au profit peut-être maintenant d'un divertissement plus volontiers assumé que d'une volonté d'expliquer des sciences, évidemment.
Bon, ceci dit, tu représentes un cas particulier dans la mesure où le plus souvent les scientifiques rejettent la science-fiction à cause justement des erreurs qu'elles peuvent contenir. J'aimerais savoir si toi tu préfères partir de films qui ne sont peut-être pas aboutis, ou en tout cas de films grand public. Tu préférerais peut-être cela par rapport à ce qu'on appelle la hard science, qui est donc une littérature de science-fiction plutôt exigeante sur le plan scientifique, mais qui n'est pas forcément accessible à tout le monde.
Eh bien, c'est exactement ça. Si je dois vulgariser, si j'ai comme ambition de vulgariser, de diffuser des connaissances scientifiques, j'ai pour ambition d'en parler au maximum de monde possible. Alors déjà, si je parle de science-fiction, si je me parle au lecteur de science-fiction en France, ça fait, allez, je ne sais pas combien, 10 000 si on est généreux. 5 000, non, des gens qui en ont lu probablement plus que 10 000, mais des gens qui connaissent bien. Donc si je parle d'œuvres de littérature de science-fiction, je vais probablement m'adresser à un public beaucoup plus restreint que si je parle de films de science-fiction, déjà. Il n'y a qu'à voir les... Enfin, je sais pas, Avatar, ses qualités intrinsèques sont... Enfin, ce film est un scénario, il y a un scénario qui est fin comme une feuille de papier cigarette, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Toutes les images, toutes les idées qui sont dedans sont des repompées de ce qui s'est passé en science-fiction iconographique, enfin, depuis 40 ans, donc ça n'a rien inventé, enfin, c'est juste rien. Et il l'a fait beau. Ah, voilà. Il a réalisé, il a mis en scène tout ça, il en a fait une raison technique spectaculaire, il y a eu une grosse pub derrière, et boum, c'est vu par plein de gens. Donc c'est bien d'en parler, parce que finalement, c'est un support que tout le monde connaît. Et ça, évidemment, si on veut s'adresser au maximum de gens, on a quand même intérêt à utiliser les œuvres les plus connues, ou les plus populaires, ou les plus connues. Et c'est pas leur qualité intrinsèque qui vont en faire une œuvre, leur qualité intrinsèque de science, qui vont en faire une œuvre populaire. Si on parle de Bienvenue à Gattaca, par exemple, c'est un film génialement bien fait, c'est un film intéressant, la science est plutôt bien traitée dedans, 2001 c'est pareil, Blade Runner il y a des choses sympas, mais c'est pas aussi vu qu'Avatar, c'est dommage, mais voilà, ou Prometheus, qui est lui pour le coup une merde infâme. Mais tout le temps, enfin à tous les niveaux, là c'est en train d'atteindre le niveau de Fusion the Core, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est le niveau de Fusion the Core, c'est un peu déprimant. Alors qu'en même temps Alien, par exemple, Alien, mettons le premier Alien, qui est quand même la norme, c'est un film aussi qui peut être très scientifiquement très discutable de plein de façons différentes, mais on peut élaborer un discours scientifique sur ce film, même s'il y a des tas de choses en science dedans qui ne sont pas compréhensibles, en tout cas à l'aune de la science, ou pas claires à l'aune de la science ou de la biologie terrestre. Donc oui, il faut choisir les choses. Moi j'aime bien choisir. Alors en même temps, j'aime bien les œuvres de science-fiction littéraire, évidemment j'en ai lu, Et il y en a tout un tas qui sont extraordinairement intéressants à analyser. Bien plus intéressants, parce que souvent, et tu fais partie de ces auteurs-là, il y en a quand même qui chialent. C'est-à-dire, les auteurs de science-fiction, ils ne veulent pas faire, comme beaucoup de scientifiques l'imaginent, de la science fictive. Ils ont pas pour ambition de faire un truc qui soit merdique du point de vue de la science. Il faut quelque chose qui leur est utile pour leur intrigue. Et bien souvent, ils se documentent. Ils lisent un peu de science. Ils lisent Science et Vie, Science et Avenir, pour la science, la recherche. Enfin, ils savent un peu des sciences. Ils ne sont pas forcément scientifiques de profession, mais ils savent un peu des sciences. Alors après, bien sûr, il faut des fois déformer un peu les choses, les transformer pour que ça colle, pour que ça fasse le truc, quoi. Alors après, dans ce processus de déformation, il arrive parfois que ça devienne faux, que ça devienne pas aussi juste que le point de départ. Mais c'est pas grave. Ils essaient de faire quelque chose qui tient la route.
Le processus de déformation vient aussi que l'auteur a peut-être une seule idée sur laquelle il s'est documenté, qui est le projet principal, mais du moment qu'il le transpose dans un certain futur, il est bien obligé de mettre le futur au même niveau de technologie, et donc d'imaginer que les gens ne vivent pas de la même manière, ne travaillent pas de la même manière, ne se déplacent pas de la même manière, et à ce moment-là, il y aura plein de petits détails sur lesquels il n'aura pas planché et qui vont peut-être le mettre en porte-à-faux. Et c'est ça le problème, c'est de réinventer et d'imaginer tout un monde. En même temps, l'auteur de science-fiction doit davantage spéculer, à mon avis, c'est plus un discours sur la science à partir d'une documentation. Je reconnais plus que de faire peut-être de la prévision, parce que l'on est toujours aussi dans le discours de dire « ceci, Jules Verne l'avait prédit », on n'est pas des futurologues, on n'est pas obligé de prédire, ce n'est pas ce genre de science-fiction-là qui est intéressant, c'est plutôt un discours, c'est-à-dire une réflexion sur la science.
Bien sûr, et c'est pour ça que, considérer que la science-fiction c'est de la science fictive, c'est un double contresens, c'est pas ce que ça veut dire, science fiction c'est pas ce que ça veut dire, ça peut dire un roman scientifique,
selon l'anglais,
une fiction scientifique, un roman scientifique disons, un merveilleux scientifique comme disait Maurice Renard, et puis c'est aussi de l'humain finalement, c'est pas la techno qui est intéressante. Alors, dans les romans de hard science, la techno ou la science, elle prend un aspect très important. Mais c'est aussi une mise en scène d'éléments scientifiques et techniques et l'analyse ou le questionnement des conséquences sur le monde. Et c'est pour ça qu'on te dit, ça qui est très intéressant, quand on dit que quand on met un sabre laser, on ne met pas le sabre laser tout seul. C'est comme quand on a un objet comme cette caméra qui nous filme ou ce micro. Si on trouve cet objet posé au milieu d'un désert, même s'il n'y a que du sable sur 10 mètres d'épaisseur et sur 100 000 km², trouver cet objet, ça veut dire qu'il a été produit par quelque chose qui n'est plus là manifestement, mais ça induit plein de choses en amont, le plastique pour le fabriquer, des machines pour faire ça, des gens qui vont s'en servir, enfin, un seul objet, ça induit qu'il y a énormément, il y a un monde derrière un objet. Donc dès qu'on met un objet intéressant, on veut faire un truc, on va dire, ouais, on va faire des Jedi avec des sabres laser, ça va être cool. Ouais, mais il y a tout le monde qui va avec, qu'il faut inventer, alors les possibilités sont larges, mais il y a tout ce monde qui va avec. Et c'est ça qui est intéressant, moi qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que j'analyse un peu des œuvres de hard science. Ça m'arrive pour des publics, je vais dire, très fans de SF, dans les conventions de SF, ou de temps en temps ça m'est arrivé, pour des gens qui connaissent vraiment les œuvres, évidemment, qui se sentiront touchés par l'œuvre, parce qu'ils la connaissent. Mais en même temps, c'est pas les œuvres, moi, qui m'intéressent le plus, comme lecteur de science-fiction, en fait. C'est plutôt les œuvres, plutôt à la Claude Eken ou à d'autres, qui mettent en scène la science et qui posent des questions, des conséquences humaine, sociale, de civilisation, finalement, des faits scientifiques. Quoi. Le clonage humain, ça existe, et ça vaut 100 000 euros. Ça veut dire qu'on peut se l'acheter, enfin, pas tout le monde, mais plein de gens peuvent se l'acheter. C'est quoi le monde dans lequel on vit? Voilà, une question qui me paraît intéressante. Et des comités d'éthique, ils peuvent pas réfléchir pareil. Ils peuvent pas se poser la question comme ça. Ils peuvent pas dire, ça se fait, ça vaut 100 000 euros. Ils disent, comment on va faire pour que ça se vende pas et que ça vaille jamais 100 000 euros?
Là-dessus, j'ai un exemple. J'ai travaillé en début d'année dernière pour une association qui s'appelle Vivagora et qui pose beaucoup de questions sur le biologique, la biologie de synthèse et autres. Donc j'ai dû écrire trois scénarios d'un monde futur dans lequel la biologie de synthèse est, disons, répandue, effective partout. Donc les Frankenfish, alors ce sont les poissons Frankenstein, ça existe déjà, ce sont des poissons qui changent de couleur selon la pollution qu'il peut y avoir. Finalement, on n'avait pas envie de les garder, on ne voulait pas les lâcher dans la nature, mais les gens avaient trouvé ça tellement joli qu'on les a gardés dans les aquariums. Mais le fait qu'ils aient été libérés dans certaines rivières ont permis de se rendre compte que dans certains bras de rivières que l'on croyait exempts de toute pollution, il y en avait. Donc, sur un, un animal génétiquement modifié, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain intérêt à l'avoir quand même, même si on libérait dans la nature quelque chose d'un petit peu dangereux. Donc on peut imaginer après des ailes de papillons et de libellules qui m'ont changé de couleur sur la pollution. Moi j'ai appelé ça des biolules. Et je devais écrire le 3 scénarios, le positif, le négatif et le moyen terme, mitigé. Et trois groupes de travail, des citoyens, allaient plancher là-dessus pour donner leur avis, et puis ensuite mettaient ça en commun. Là où j'étais surpris pour la synthèse, j'ai participé à la journée de synthèse, c'est que, aussi bien le négatif que le positif, on a trouvé que j'étais un écrivain éminemment pessimiste. Avec un monde horrible où il y avait des papillons. Alors tout était justement génial, c'est-à-dire qu'il y avait des papillons qui changeaient de couleur pour montrer là où il y avait de la pollution. Certaines plantes, il y a des plantes qui bouffent la pollution et qui donc l'éliminent, mais donc là où poussent ces plantes, vous savez que le sol est pollué. En même temps, on le sait que certaines écoles ont été construites sur des sites qui étaient industriels avant et qui n'ont pas été dépollués dans les règles, si jamais même on a dépollué. Voilà, ça se passe encore de nos jours. Donc c'est vraiment la situation d'aujourd'hui et les gens n'en avaient peut-être pas du tout connaissance, peut-être parce qu'on n'en parle que dans un entrefilet de journal, et de dire mais dans quel monde vivons-nous, dans le monde de Claude Ekel, où on a besoin de papillons, on a besoin de plantes qui dépolluent, on a besoin de tout ceci. Je ne dis pas qu'on a besoin, c'est que ça existe parce qu'aujourd'hui, il faut en avoir. Mais là, on passerait pour quelqu'un d'éminemment pessimiste, alors qu'on est simplement, comme tu dis, réaliste. Voilà, le regard qui est porté aussi sur la science change par rapport à ça. Et je ne sais pas si c'est le regard du scientifique ou le regard de l'auteur de science-fiction, c'est de prendre ce que fait le scientifique et de voir comment on le transforme en le mettant dans une vie au quotidien. Et c'est l'ensemble de toutes ces réalisations, lorsqu'elles sont ramenées sur la vie quotidienne d'une personne, la mise en scène qui permet peut-être de se rendre compte des avantages et aussi des inconvénients. Et de toute manière, on ira toujours avec les inconvénients et les avantages en même temps.
Absolument. C'est des questions que ça pose des questions. Voilà. La réponse qu'apporte l'auteur, elle est propre à l'auteur.
Et d'un état social ou philosophique que...
Mais c'est plus important la question que ça pose, exactement. Et ça, pour ça, la science-fiction est beaucoup plus que de la science. C'est une exploration, c'est une expérience de pensée. Enfin, c'est la science-fiction qui m'intéresse, c'est pas que ça. Star Wars, bon, c'est pas ça non plus. Hein. Mais c'est une sorte d'expérience de pensée sociale, finalement. Que ne font pas en général les sociologues. On avait, rappelle-toi Claude, quand on a travaillé sur Mission Biospèce, l'idée était la suivante, une exposition qui a eu lieu il y a maintenant en 2005, donc un certain temps, à Toulouse, à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et donc l'idée c'était que le lieu de l'exposition, l'intérieur de l'exposition, ça soit une partie d'un vaisseau interstellaire qui soit raisonnable, c'est-à-dire qui aille d'abord moins vite que la lumière, et qui allait même raisonnablement moins vite que la lumière pour être à peu près pensable. Et qui donc mettent des centaines d'années pour atteindre son objectif. Et donc il y a les humains qui sont dedans, ils doivent vivre dans ce vaisseau. Et la question se posait de savoir comment on s'organise. Enfin, c'est pas simple. Et vous rentrez dans le vaisseau, vous savez que vous y mourrez, que vos enfants y mourront, vos petits et arrière-petits et arrière-arrière-petits-enfants y mourront. Ce sera au bout de 5 générations ou 6 générations que le vaisseau arrivera. Donc comment on organise des humains là-dedans, voilà. Qui couche avec qui, selon quels critères, qui produit des enfants avec qui. Voilà, tout de suite les questions commencent à devenir difficiles. Et les sociologues, alors il y a des questions techniques faciles, comment on recycle l'eau, enfin je dis facile, elles sont super merdiques en fait, mais c'est une question facile, c'est que de la techno. Hein, donc comment on recycle l'eau, comment on fait pousser les plantes, comment on éclaire tout ça, comment on fait une gravité artificielle, c'est quoi la taille du vaisseau. Des choses qui sont extrêmement complexes techniquement, mais qui sont en réalité extrêmement simples, parce que quand on met ça à côté avec les problèmes humains, ne serait-ce que les organisations sociales qu'on doit mettre là-dedans, dans une caisse à savon fermée, et qui part à 1/20 de la lumière et qui va mettre 300 ans pour arriver, tout de suite, les sociologues, là, ils répondent déjà, mais rappelle-toi, il y en avait un ou deux qui étaient venus pour commencer à discuter, puis on leur a dit, alors maintenant, on fait quoi? Non, on ne dit pas, on va faire de l'eugénisme. Ah ben oui, il faudrait peut-être faire ça s'ils sont que 300 ou 400, parce qu'il n'y a pas la place pour 500 000 personnes dans ce vaisseau, hein. On est que 300. Donc, qui couche avec qui? Ok, chacun sa merde, mais qui fait des enfants avec qui? Non, c'est pas autorisé au hasard, quoi. Hein, puis, s'il y a un enfant qui n'est pas dans le bon, hein, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça posait tout de suite des questions qui se posent là, mais bon, moins de manière moins prégnante, qui sont posées, qui se posent et qui se poseront dans l'humanité, mais là ça se posait directement. Et les sociologues, il n'y en a aucun qui a voulu tenter l'expérience de pensée.
Voilà. Certains l'ont critiqué sur des...
Aucun. Et même certains n'étaient pas d'accord du tout avec l'idée. Donc voilà, c'est pour dire que la science-fiction, elle se permet de faire des choses, parce que c'est pas de la sociologie, c'est pas de la science, c'est d'imaginer, on fait ce qu'on veut. C'est un peu comme quand Copernic il vous raconte que le Soleil est au centre du système solaire et que les planètes dont la Terre tourne autour. Il n'a aucune preuve de ça. C'est simplement, ça lui convient mieux, c'est une hypothèse qui lui paraît plus simple, que le gros machin soit au centre et que les petits bitonieux tournent autour. Contrairement à ce que prétend tout le monde. Et certains ont eu des problèmes avec cette prétention-là. On lui recommande quand même que s'ils l'écrivent, ils fassent ça sous le compte de l'hypothèse. Ils le présentent comme une hypothèse, pas comme la réalité du monde. On sait bien que la réalité du monde, c'est la Terre au centre de l'univers. Mais, comme hypothèse, on va mettre le Soleil au centre et la Terre qui tourne autour, et tirons-en les conséquences. Mais on sait bien, évidemment, et on insiste lourdement. Donc la science-fiction, elle peut faire ça. Elle peut se dire, imaginons que, et si on pouvait faire de l'eugénisme, et si on pouvait faire ci, et si on pouvait faire... Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, on ne dit pas, c'est des méchants, c'est des raéliens, c'est des nazis, c'est des je sais pas quoi, enfin des méchants. Non, on ne dit pas ça. On dit c'est de la science-fiction, et l'œuvre est intéressante ou pas intéressante, pose des questions intéressantes ou pas, mais qui sont complètement décorrélées de la question elle-même. Et donc c'est ça qui est intéressant de la science-fiction, alors que dans les comités d'éthique, par exemple, je connais très bien Jean-Claude Maison, qui est le comité de bioéthique français, qui est le président de ça, j'avais discuté de ça avec lui, on ne risque pas de parler brutalement comme ça, enfin en tout cas ça sort, et même dans les débats policés et clos de ce comité, ça ne risque pas de se poser des questions en les posant brutalement comme ça sur la table, comme peuvent être posées dans des œuvres de fiction. D'où l'intérêt de la science-fiction.
Parce que la parole de l'auteur est libre, c'est voilà, ça qui est bien.
Parce que c'est l'imaginaire, oui, c'est de la science-fiction. Et dit des fois de manière péjorative, évidemment.
Oui, mais peut-être aussi le rejet de certains scientifiques par rapport à la science-fiction.
Bien sûr. Donc ça permet de montrer qu'on a du recul. C'est dès le départ, le discours est à côté du monde réel. On sait bien que c'est pas le vrai monde. Et parfois, pour certains, c'est péjoratif. Et oui, c'est de la science-fiction. Mais c'est précisément ce qui en fait l'intérêt aussi. C'est que ça permet de prendre ce recul, ce décalage, et de regarder notre monde avec une vision d'extraterrestre. Il y a eu des... Je connais moins ça, je suis pas suffisamment fort en littérature, mais il y a eu des situations, ben, prenons par exemple les lettres persanes, ou le songe de Kepler, où on discute de l'Europe du XVIe ou du XVIIe siècle, par le regard d'étrangers ou de sélénites. Et on en discute par leur regard pour les critiquer. Mais si on disait « je suis un homme du temps et de ce lieu et j'en parle, je critique », gling. Mais là, c'est pas vous qui critiquez, c'est une œuvre de l'imaginaire, c'est des persans, c'est des sélénites qui disent que tout ça est un peu bizarre.
Les martiens,
voilà.
Ok, vous avez peut-être des questions à poser, comme l'heure avance.
Ou des remarques.
Des remarques, oui, à faire.
Faut qu'on continue encore pendant une demi-heure. Nous, on pense être tranquille. Bon, on continue alors.
Alors justement, alors, puisqu'il a parlé de la Cité de l'Espace, le travail qui a été fait sur ce vaisseau spatial, on a échangé par email d'une manière assez intéressante. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tellement le temps de se voir. C'est quelqu'un de très pris.
Non, mais surtout, tu es à Béziers et moi à Paris, ça ne nous aide pas. En plus du reste.
C'est vrai.
En plus,
c'est
que je suis une vedette, évidemment.
Non, c'est vrai, il n'est jamais là. On a beaucoup échangé par email, et ce qui fait que j'avais ramassé ça en une sorte de petit cahier de questions-réponses pour remettre de l'ordre dans toutes les discussions que nous pouvions avoir. C'est-à-dire, c'est bien joli d'imaginer qu'on aura peut-être la fusion pour propulser un vaisseau spatial. À partir de quoi les gens maintenant ont déjà envie de retraiter le minerai qui se trouve sur la Lune, l'hélium, pour l'avoir. Alors même que, on a envie d'avoir le carburant alors qu'on n'a pas encore fabriqué le moteur.
Le moteur, voilà. C'est ça.
Tout ceci, c'est toi qui avais trouvé aux éditions du Pommier le moyen d'en faire un bouquin, puis moi j'avais compris d'en faire un roman, et donc il fallait en faire un thriller. Et là, du coup, on retombait dans les questions classiques, c'est-à-dire que tout ce que nous avions posé sur la table, et qui fonctionnait bien d'un point de vue de discussion, il fallait l'insérer dans un cadre géopolitique, qui nous a posé tout de suite d'autres problèmes.
C'est là où j'ai réalisé que je n'étais pas prêt d'écrire un roman tout seul, quoi. Grâce à
toi. On s'est bien amusé à le faire à deux.
Précisément, c'est ça qui est difficile. D'une part, c'est qu'un texte de vulgarisation, il peut faire un aplat de science en le diluant, en l'expliquant, en le mâchant, mais la personne qui lit ce livre sait que c'est une œuvre de vulgarisation, donc il y aura de la science dedans. Quelqu'un qui lit un roman, il s'attend à lire un roman. Donc si il y a « Ah bon, et ton vaisseau, il va être comment ?» et pendant 200 pages, il y a un aplat monstrueux sur comment son vaisseau dit « Ah oui, il est pas mal ton vaisseau, et pour faire ça, et vas-y, rac, tu remets derrière 200 pages. » c'est plus un roman, du coup. Et donc, là, j'ai vu tout de suite, et en touchant du doigt de manière très concrète, la différence qu'il y a entre une histoire et... une histoire vraiment, et une histoire qui serait l'histoire de la science, enfin, ou la façon dont la science raconte le monde, qui n'ont rien à voir, ou dans un cas, on peut être un peu dense, et c'est même, on peut être dense, mais en tenant compte de son public non spécialiste. Alors, dans notre cas, c'est qu'il faut d'abord faire l'histoire, et de temps en temps, on peut glisser des éléments dessus. Donc, c'est pour ça aussi qu'en même temps, on ne peut pas porter reproche aux œuvres de fiction de ne pas être dense en science, parce que sinon, c'est plus une histoire, c'est plus une histoire de science-fiction, ça devient un truc chiant. C'est comme les jeux pédagogiques. On sait bien que vous savez que c'est déjà chiant un jeu pédagogique. Ouais.
Il y a le mot pédagogie dedans.
Parce qu'on sait déjà que c'est pas un jeu.
Hélène.
Roland, tu as dit à un moment donné, à plusieurs reprises, que les scientifiques, entre guillemets, étaient souvent hostiles à la science-fiction. Or, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment en France, et je n'ai pas fait d'études, mais disons que dans ce que je lis en général, il y a énormément de scientifiques,
oui.
Au contraire,
alors,
qui disent que
je vais préciser.
C'est la science-fiction
qui les a amenés. Exactement. Alors, il y aurait peut-être une petite différence entre la France et le reste du monde, qui est essentiellement les anglo-saxons en science-fiction, même s'il y a évidemment de la science-fiction dans beaucoup d'autres pays. Pour les anglo-saxons, je crois que c'est beaucoup moins vrai qu'en France, où la science-fiction, c'est un peu péjoratif. En France, ça l'est moins, je pense. Oh, il y a vraiment 30 ou 40 ans, c'était péjoratif. Maintenant, ça l'est moins, et parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ont vu ça. Il y a eu, la science-fiction, finalement, c'est une littérature qui se vend, en tout cas en France, pas autant qu'elle le mériterait, vu son intérêt. Et en même temps, elle a permis absolument partout dans la société. Enfin, je veux dire, elle est partout, absolument partout. Donc, il y a une culture SF qui est partout. Et pas que dans le cinéma, dans les mots, dans certaines actions, dans la pub, etc. Donc les jeunes scientifiques, maintenant, tu mettons même la trentaine, sont déjà plus baignés là-dedans que ça pouvait l'être dans les années 70 ou dans les années 60. Et ils sont plus ouverts, de ce point de vue-là, ils sont plus ouverts à ça. Et la science-fiction sert de sergent recruteur, de toute façon, enfin, c'est pas son objectif, mais une de ses conséquences, c'est que des gens viennent à la science par la science-fiction. En fait, ils avaient déjà un goût pour la science, ils ont eu un goût pour la science-fiction aussi, et ils se sont réalisés que c'est ça qu'ils voulaient faire. Je veux faire ce vaisseau, je veux faire ce truc-là.
Il y a peut-être aussi le fait que ce qui était considéré comme science-fiction, il y a peut-être 10 ou 20
c'est
ans,
vrai maintenant.
Devient de moins en moins.
Et... Oui, il y a des objets qui sont imaginés par la science-fiction il y a 20 ou 30 ans, qui sont maintenant des objets réels, même si c'est pas la
même.
Les télécommunications.
Je me souviens que j'avais été surpris dans une nouvelle de Asimov, quand j'avais 14 ans, où la personne parlait et l'ordinateur écrivait le texte. Waouh, waouh. Aujourd'hui, bon, on peut le faire, et en plus, c'est chiant comme la mort de le faire. Quoi. On a l'impression d'être privé de ses membres, de parler, puis de voir les fautes d'orthographe qu'il fait, évidemment, ou syntaxe.
Il faut les
corriger et tout le reste. Bon, voilà. Mais ça existe, ça existe. Mais alors, toi, tu es venu à la science-fiction, enfin, tu es venu à la science par la science-fiction ou inversement ?
Moi, je suis venu à la science très jeune, et vers 9 ans. Et enfin, je fais de l'astronomie depuis que j'ai 9 ans, quoi. Et je suis venu à la science-fiction naturellement derrière, vers 13-14 ans. D'abord, mon père lisait beaucoup de science-fiction, donc j'avais de quoi sous la main, j'avais de quoi à la maison. Et puis, il y a un moment donné, si tu veux, j'ai, en la bibliothèque, mon père ne connaissait pas du tout la BD. Et à la bibliothèque, j'ai emprunté un livre de Druyer une fois. Et là, j'ai arrêté de lire le reste, quoi. Il dit, bon, Tintin, Schtroumpf, c'est bon, allez, tout ça, ça dégage, on va passer au machin intéressant. Là, c'était quand même le choc. Et après, j'ai vu les autres, j'ai dit merde, Bilal, le bus. Enfin, après, j'ai dit bon, ok, c'est ça que je veux. Donc voilà, je suis arrivé d'abord à la science, mais la science-fiction, c'était exactement la littérature qu'il me fallait, finalement. C'est exactement la littérature qu'il me fallait, que ce soit littéraire ou en BD.
Roger.
Roger, ouais.
Mais est-ce qu'on
n'avait
pas l'impression que quand les romans avancent vieillissent, la science qui est dedans vieillit aussi?
Je n'entends pas bien.
Est-ce que quand les romans vieillissent, la science qui est dedans vieillit aussi?
Ah.
Les auteurs de science-fiction s'inspirent de la science de leur temps d'une façon ou d'une autre, ou du moins de l'état de la science de leur temps. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ils la transforment, ils la déforment pour des objectifs romanesques particuliers, et parfois ils peuvent tomber juste, ils peuvent, par ce processus de transformation, inventer d'une certaine façon quelque chose qui se produira plus tard. Mais c'est vrai que il y a des choses qui sont datées parce qu'elles sont maintenant pas réalisées comme ça, ou avérées fausses, ou voilà, qui n'ont plus de pertinence maintenant. Si on prend, alors je dis ça de plus volontiers parce que le roman va sortir bientôt, le roman de Poul Anderson qui s'appelle Barrière mentale, qui va sortir au Bélial tout prochainement. Qui va être réédité. Là, il y a un problème autour du cerveau et de l'intelligence. Et on a confié, et c'est moi qui me suis occupé de l'édition du texte, de la postface scientifique au ce roman de Poul Anderson, comme j'avais fait une postface à Taux Zéro. Et là, Poul Anderson, dans Taux Zéro, il prend la relativité restreinte, et on la connaît déjà très bien dans les années 70. Donc ce qu'il explique, c'est très bien du point de vue de la science. Et ça n'a pas vieilli, c'est toujours très bien. Le langage a un peu vieilli, mais pas les idées. Mais pour le cerveau, ce qu'on sait du cerveau dans les années 70, c'est la préhistoire par rapport à ce que l'on sait maintenant. Et on voit très bien, et les deux scientifiques qui ont écrit la postface sur le cerveau tel que le décrit Poul Anderson, et son fonctionnement tel qu'il le décrit, est vraiment daté de l'époque où il a écrit son roman. Donc évidemment, la science progresse d'une certaine façon. Donc évidemment, certaines idées peuvent vieillir moins bien que d'autres. Non, je crois pas. Justement, les deux qui ont lu Poul Anderson, qui ont lu Barrière mentale, ils connaissaient pas ce roman. Les deux scientifiques, c'est des copains qui sont spécialistes, enfin, un copain, une copine qui sont spécialistes du cerveau, précisément. Peu lecteurs de science-fiction, donc j'ai dû les travailler au corps. Ils sont pas a priori désagréables avec les science-fiction. Ils étaient pas pour comme ça, quoi. Je leur dis, mais si, c'est vachement bien de nous faire un truc terrible et tout. Ils ont fait une postface pas mal du tout. Ils ont lu le roman, ils ont trouvé intéressant. Évidemment, pour eux, c'était de la science-fiction avec un léger ton péjoratif quand même. Mais ils y ont trouvé un intérêt parce que précisément, ils ont pu, à travers ce roman, lire, ils le connaissaient déjà par leur culture, mais lire ce qu'était l'état de la compréhension du cerveau à l'époque. Et que Poul Anderson retraduisait très bien. Poul Anderson qui a fait, de ce point de vue-là, faisait un bon travail de documentation, semble-t-il. Je l'ai vu pour Taux Zéro et apparemment dans celui-ci aussi.
Alors, ceci dit, je suis désolé, mais on peut aussi lire les œuvres des scientifiques qui sont très intéressantes, de Darwin à aujourd'hui, qui ont écrit des choses très intéressantes, mais qui, à l'intérieur même de ces œuvres-là, colportent les idées de leur époque, et qui, finalement, celles-ci ont vraiment vieilli. Hier, je me suis baladé au Jardin des Plantes, puisqu'on parle de cerveau, il y avait Cuvier. Cuvier essaye de comparer la taille des cerveaux pour voir la différence entre un cerveau masculin et féminin, entre un cerveau de noir et un cerveau de blanc. Il essayait de mesurer cela pour essayer de prouver des idées raciales qui existaient de son temps. Tout Cuvier qu'il était.
En fait, ce sont les idées qui vieillissent.
Enfin, c'était De Broca surtout qui a fait ça avec en pesant le cerveau de Cuvier. C'était toute une polémique à l'époque.
Les idées vieillissent, évidemment. Les idées vieillissent. En science aussi, évidemment. En science.
Alors,
aussi.
C'est vrai que dans une littérature générale, on voit bien, Dickens, par exemple, ça s'est passé au XIXe siècle, que l'univers ne soit pas le même, c'est normal, il est daté et il est inscrit dans son temps. Le problème, c'est que lorsque l'on parle de futur, évidemment, on voit passé, surtout l'époque à laquelle c'était écrit et on ne voit pas le futur. À partir de là, si c'est au centre du récit, ça peut être dommageable. Maintenant, si les idées qui sont professées sont intéressantes et que ces points de vue-là, ces descriptions ne sont que de l'ordre du détail et sont donc secondaires, à ce moment-là, bon, je crois qu'on a toujours le même plaisir de lecture. Enfin,
parce que dans, une chose datée dans Poul Anderson, Taux Zéro, c'est que c'est un Suédois qui est le directeur de la, le chef, pas le directeur, le commandant de l'expédition. Parce que les Suédois, on sait bien que c'est des gens sérieux et qui vont faire et qui vont bien gérer le merdier. C'est pas les Américains ou c'est pas je sais pas quoi. Donc c'est un peu curieux. C'est des choses complètement différentes.
Qui est d'origine scandinave.
Voilà, qui est d'origine scandinave. En plus, bien sûr, en plus d'origine scandinave. Donc bon, voilà, c'est on voit que c'est daté. Mais les idées sont datées évidemment. Les idées vieillissent.
Bien, il y a d'autres questions.
Oui, alors, les voiles solaires, oui, alors, là, la science-fiction, dans un certain nombre de cas, très rarement, je ne pourrais pas me dire, probablement jamais, la science-fiction a inspiré la science. Il n'y a pas une idée que les science-fictions dit, tiens, j'y pense parce que je l'ai lu dans un bouquin de science-fiction. L'inverse, évidemment, est plus vrai, c'est la science-fiction, on s'inspire évidemment de la science. Mais il y a eu quand même un certain nombre de cas, et l'ascenseur spatial en est un, où la science-fiction a remis a mis devant les yeux de scientifiques une idée qui était déjà venue de la science, mais inconnue. C'était un ingénieur russe qui a imaginé tirer un câble entre le sol et l'espace, un câble tendu, il est tiré vers le bas par son poids et vers l'extérieur par la force centrifuge, il est accroché à la Terre. S'il est bien calculé, il est en équilibre, donc il y a une espèce de câble extrêmement long qui fait, s'il est en équilibre tout seul, il fait 144 000 km de long. Vous avez une idée de la structure, hein, c'est presque 12 fois le diamètre de la Terre, à peu près 12 fois le diamètre de la Terre. Et on peut imaginer monter et descendre le long de ce câble et donc prendre l'ascenseur pour l'espace au sens littéral du terme. Après, il faut s'en décrocher évidemment, mais bon, en tout cas, on peut espérer aller au moins en orbite basse avec ça. Et cette idée-là a été promue par un russe dans les années 60, en russe, dans un article, dans un journal russe, dans les années 60, complètement passé sous silence, enfin absolument invisible du monde entier, à part peut-être chez les Russes. Et c'est Arthur Clarke qui l'a remarqué, je ne sais pas comment il est arrivé chez lui, dans son regard, et qui en a fait Les Fontaines du Paradis, le roman qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Ce roman était bien fait, finalement, un roman assez intéressant, techniquement impeccable, et ça a mis devant les yeux d'ingénieurs américains, et de scientifiques américains, ce projet-là, et qui se sont dit, ouf, ça a l'air chouette, quoi. Et donc, ils ont commencé, alors on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le matériau pour le faire, qu'il faut un matériau qui a des propriétés mécaniques, le cahier des charges du matériau pour faire ça était tellement extrême que ce matériau n'existait pas à l'époque. Maintenant, il semble que le matériau existe, enfin, on n'est pas encore capable de le faire dans des conditions, dans des quantités, ce serait les nanotubes de carbone, qui a les bonnes propriétés mécaniques, si on sait le faire très pur, et sur 144 000 km de long. Alors pour l'instant, on sait le faire assez pollué et sur un centimètre de long. Donc ça vous donne un peu une idée, voilà. Mais il existe, alors vous voyez, c'est tout le transfert qu'il y a eu, toute la différence qu'il y a entre c'est impossible et c'est très difficile. Quand c'est impossible, ça ne veut pas dire que ça le sera tout le temps, mais ça veut dire que, ok, on considère que c'est impossible, donc le scientifique ne va même pas réfléchir à la question. Peut-être qu'il est con, parce que dans 20 ans, ça se fera, mais il n'y réfléchira pas. Si c'est très difficile, là, ça devient un sujet de recherche.
Ce sont les lois de Clarke.
Exactement. C'est les lois de Clarke. Et donc, ça, passer de c'est impossible à c'est difficile, c'est quand même un point très intéressant. Donc, les ascenseurs, l'ascenseur spatial, je ne sais pas si on le fera un jour, mais n'empêche que la NASA a déjà produit 3 gros rapports dessus entre 1998 et 2010. Il y a 3 rapports, chaque fois un peu plus épais les uns que les autres, mais qui sont, vous voyez, des rapports de même 200 pages. C'est pas pour construire un truc pareil. Vous imaginez la doc, je ne sais pas, pour le tunnel sous la Manche. Imaginez la pile de documentation, de plans qu'il faut pour le tunnel sous la Manche. Imaginez ça. C'est pas 200 pages de rapport. Hein. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Il y a des tas de problèmes techniques qui se poseraient. Mais voilà, ça devient un objet qui est pensable. C'est ça qui est intéressant. On peut le penser. C'est comme le vaisseau interstellaire. Il n'y a pas besoin d'une physique extraterrestre.
On en parle en ce moment.
Le déviement d'un astéroïde. Voilà, il y a tout un tas de projets qui relèvent de la science-fiction parce que c'est là où on les expose le plus volontiers. Mais que néanmoins, certains scientifiques discutent de manière, éduquée scientifiquement, précise, en relevant que ça ne sera quand même pas pour demain, mais qu'on peut le penser par la science actuelle. Il n'y a pas besoin de métapropulseurs astro, de physique extraterrestre et de je ne sais quoi qu'on n'a pas encore inventé. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette science à frontières, c'est des choses que l'on peut penser dans l'état actuel des connaissances, et qui seront difficiles, voire très difficiles à faire. Peut-être ça sera dans des siècles, peut-être même on ne le fera jamais, parce que après tout, ça sera trop difficile tout le temps, mais on peut le penser. Alors qu'aller plus vite que la lumière... Bon, ben voilà, on vous dit, les scientifiques vont dire ça marche pas, et puis c'est tout, ils arrêtent d'y réfléchir. Point.
Voilà. Ça ne se discute pas.
Voilà, c'est voilà. Tout. Et donc c'est pour ça que c'est cet aspect plus frontière, mais du côté de la science qui m'intéresse. Les aspects plus, on fait ce qu'on veut, ben, la science-fiction fait ce qu'elle veut, comme Harry Potter, il fait ce qu'il veut. Hein, c'est là.
Il s'y intéresse.
Oui, alors Jean-Pierre Petit, c'est un cas particulier.
Mais,
ouais.
Mais,
bien sûr, mais il y a des. Bien sûr, non, mais lui, il se fait lourder pas pour ses idées scientifiques, mais pour son psychisme, disons, vacillant. On va dire ça comme ça. Parce que scientifiquement, Jean-Pierre Petit est un très bon scientifique. C'est-à-dire, toute sa série de BD, Anselme dans Turlu, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, mais Géométricon, Topologicon, enfin, il y en a 2-3, c'est génial, quoi. C'est absolument génial. Donc, c'est un très bon scientifique, Jean-Pierre Petit. Et bien, à un moment donné, il y a eu un glitch, quoi, et elle s'en est parmi, quoi. Et du coup, la science, elle procède pas par glitch, quoi. Malheureusement, elle a du mal à accepter ce genre de personnage dans sa communauté. Mais il y a des scientifiques qui, donc, c'est la terraformation aussi, la science spatiale, il y a des scientifiques qui regardent ça, ou aller plus vite que la vitesse que la lumière. En réalité, on peut dire qu'il y a certains scientifiques qui se sont intéressés à cette question, scientifiquement, c'est-à-dire en étant pas en faisant de la science-fiction au sens péjoratif du terme, mais en précisant une chose, c'est que on peut dépasser les vitesses de la lumière en apparence, mais on peut pas la dépasser localement. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qui a beaucoup surpris les astrophysiciens dans les années 80, c'est la découverte de jets de matière qui venaient de galaxies, de noyaux de galaxies actives, noyaux de galaxies qui dégageaient beaucoup d'énergie, jets de matière qui venaient de ces noyaux de galaxies sur des millions d'années-lumière, les jets de matière. Enfin, c'est, vous voyez, c'est des structures, des grandes structures. Eh bien, ces jets-là étaient superluminiques. Les vitesses mesurées, apparentes, étaient 6, 7 fois supérieures à celles de la lumière. Alors là, je peux vous dire, la mâchoire est tombée. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était qu'une apparence. Hein, d'accord, ça a été parfaitement compris. Ce sont des jets qui sont infraluminiques, mais qui sont très proches de la lumière, typiquement 90-92% de la vitesse de la lumière, et dans une direction de visée qui est très proche de votre angle de vue. Ça veut dire, vous visez comme ça, et le jet, il est presque sur votre angle de visée, légèrement à côté, ou éventuellement sur l'angle. Mais il y a un petit angle entre la direction du jet et la direction de la ligne de visée. Et dans ces conditions-là, on peut montrer qu'il y a des effets d'aberration qui sont juste parfaitement compréhensibles par la relativité restreinte d'Einstein, qui fait qu'on a l'impression de voir un jet se déplacer plus vite que la lumière, mais il ne le fait pas en pratique. Alors dans cette veine-là, c'est-à-dire dans l'aspect des apparences, il y a ce qu'on appelle les warp drives, ce que certains scientifiques appellent les warp drives, en prenant le mot de Star Trek, qui est la possibilité, pour l'instant qu'on ne sait pas faire, mais qu'on peut calculer, de se déplacer en déformant l'espace-temps. Donc, si je sais déformer l'espace-temps, alors je peux me déplacer en donnant l'impression à un observateur éloigné. Éloigné, ça veut dire à une distance très grande par rapport à la taille de ma déformation. Ça ne veut pas dire à des millions de kilomètres. C'est-à-dire, si je déforme sur 2-3 kilomètres, le gars qui est à 1000 kilomètres, c'est suffisamment éloigné. Lui peut avoir l'impression, en étant éloigné de vous voir vous déplacer plus vite que la lumière. Alors que localement, vous ne vous déplacez pas plus vite que la lumière. Même au contraire, vous vous déplacez très sensiblement infraluminique et vous donnez l'impression d'aller vite parce que vous déformez l'espace. Tout ça, on peut le calculer. Et donner l'impression d'un warp drive à la Star Trek, c'est-à-dire d'un superluminique apparent. Bon, en pratique, déformer l'espace-temps, bon, ça, c'est, on sait même, là, il faut de la physique extraterrestre. On ne sait pas faire ça.
Bon, on va y arriver, nous, dans les bouquins. Une dernière question, puis ensuite, on laisse la place au débat suivant. Il n'y a pas de dernière question, on va arrêter.
Oui, c'est la place au débat suivant, c'est ça. On est malin, hein.
La dernière, c'est
la précédente, voilà. C'est ça.
Eh bien, c'est plus vite que la lumière, on ne l'a même pas entendu.
On ne l'a pas entendu.
Bon, ben, merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Voilà, dans le temps.